1932, devant l'Accademia d'Italia à Rome, Stefan Zweig faisait un rêve éveillé. Réaliser l'union culturelle de l'Europe avant son union politique, militaire et financière. Voilà comment s'ouvre l'édito que signent Eric Fotorino et Bruno Patino dans un numéro absolument passionnant de la revue Zadig. Zadig hors série avec Arte, Rêver l'Europe. Rêver l'Europe, c'est le titre de couverture et c'est une écrivaine qui rêve d'Europe, qui est notre invitée ce matin, et un livre dans lequel elle croise son regard avec celui de l'Italien Eri De Luca, à côté de cinéastes, de journalistes, d'historiens. C'est en kiosque à partir de mercredi 24 avril. Bonjour Lola Lafont.
Bonjour.
Et bienvenue, on vous connaît comme romancière, on vous connaît également comme militante, vous avez une histoire profondément européenne et on va en parler dans un instant. Depuis que la campagne des européennes a commencé, ou comment ça a commencé? On parle beaucoup de l'Europe à l'épreuve, de l'indifférence, de la multiplication des règles, des normes, des contraintes. Ça ressemble à tout sauf un rêve. Et on vous a demandé de participer malgré tout à ce numéro Rêver l'Europe. On peut rêver l'Europe.
Ben, on devrait rêver l'Europe, parce qu'effectivement, comme vous la décrivez, elle ne fait pas beaucoup rêver si c'est une Europe qui est uniquement basée sur des critères d'exclusion économique, et c'est très loin de ce dont parlait Stefan Zweig.
C'est sûr, mais c'est malgré tout la multiplication des normes, des règlements qui occupent le devant de la scène quand on parle de l'Europe telle qu'elle se construit aujourd'hui.
Oui, mais effectivement, moi j'ai lu, je crois comme beaucoup de gens, depuis quelques mois, j'ai lu justement le livre qui me paraît le plus pertinent sur l'Europe, de Stefan Zweig,
oui.
Le monde d'hier. Et c'est frappant de voir justement à quel point l'Europe dont il parle, la Mitteleuropa, la construction, l'avancement d'un projet de guerre, enfin ce à quoi il assiste en direct, est extrêmement actuel et nous enseigne sur là où on ne devrait pas aller.
C'est un texte absolument extraordinaire de Stefan Zweig d'ailleurs. Le monde d'hier, c'est donc lui l'un des grands penseurs de l'idéal européen. Il rêvait d'une revue, une revue européenne qui célébrerait l'amour d'une patrie commune. Et c'est un peu le projet d'ailleurs de ce numéro de Zadig. Est-ce que l'idée d'une culture européenne, ça a du sens pour vous, Lola Lafont?
Alors, à la fois oui, à la fois non, parce que je pense que on se sent européen quand on quitte l'Europe. Parce que vous savez, c'est un petit peu comme faire partie d'une famille. Quand vous êtes dans la famille, vous êtes, c'est naturel, vous êtes dans la famille. Moi, c'est quand je suis partie quelque temps aux États-Unis que j'ai réalisé qu'il y a une Europe. En fait, que venir d'Europe, ça a un sens. Et en même temps, non, parce qu'il n'y a pas une Europe, il y en a plusieurs.
Plusieurs Europes.
Ouais, je dirais malheureusement, parce que il y a une hiérarchie des Europes. C'est clair que moi j'ai habité longtemps dans ce qu'on appelait avant l'Europe de l'Est, et je crois que malheureusement l'Europe est toujours partagée entre Est et Ouest, et c'est pas la même Europe.
Toujours. Vous avez grandi en Bulgarie, puis en Roumanie, vous êtes arrivé en France au milieu des années 80, et vous avez le sentiment que la fracture existe encore, même après le 1er mai 2004, où les pays dits de l'Est, ceux qui étaient de l'autre côté du rideau de fer, ont rejoint la construction européenne.
Oui, parce que c'est vraiment au niveau des préjugés, c'est-à-dire que très clairement, quand vous êtes en France et que vous dites que vous venez de Roumanie, vous avez énormément de préjugés. Il y a comme une sorte de mépris pour certains pays d'Europe. Vous avez une Europe à deux étages.
D'ailleurs, vous parlez de l'Europe de l'Est qui reste une sous-Europe.
Ouais. Ouais, aux yeux des gens, pas pour moi.
Oui, bien sûr. L'Europe, c'est un musée aussi, et c'est génial. C'est ce que vous dites à Eri De Luca. Il faut réhabiliter la beauté de ce qui est vieux. C'est assez surprenant, parce que c'est vrai qu'on parle du vieux monde, on s'en souvient, de la vieille Europe.
Ouais.
Et pour vous, c'est une vraie qualité. Par quoi est-ce que ça se transforme, ça se manifeste?
Mais encore une fois, c'est vraiment quand on la quitte qu'on réalise à quel point c'est important de pouvoir se promener dans des lieux qui ont une histoire qui vous dépasse complètement. Et oui, réhabiliter ce qui est vieux, dans le sens où c'est pas seulement vieux, ça veut pas dire immobile, ça veut pas dire rangé, ça veut dire enseignant aussi, pour moi, ça veut dire sens.
Enseignant.
Ouais, ça vous apprend quelque chose.
S'il y avait un lieu pour représenter le cœur de l'Europe, qu'est-ce que ce serait pour vous?
Un lieu, une ville?
Une ville.
Je sais pas, je sais pas. Je pense au Danube, mais...
Au Danube?
Ouais.
Pas forcément à Paris?
Non, pas forcément, parce que, je sais pas, le Danube traverse justement plusieurs pays. Si on pense Europe, ouais, je sais pas, je pense au Danube.
Mais c'est intéressant parce que vous avez tout un travail comme romancière pour redéfinir les mots. C'est d'ailleurs ce que vous faites dans une pièce que vous avez écrite et que vous jouerez dans un mois au Théâtre du Rond-Point à Paris, Éclat de vie. C'est un fil qui traverse votre œuvre et c'est la définition du mot Europe au pluriel. Vous la posez aussi pour chacun d'entre nous, la question de l'identité personnelle dans un texte que vous publiez aujourd'hui dans le journal Libération. C'est l'histoire d'un mail qui atterrit dans vos spams et qui vous propose de devenir la meilleure version de vous-même, comme on aimerait qu'il y ait la meilleure version possible de l'Europe à 27. Et vous vous demandez qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, devenir la meilleure version de soi-même.
Oui, parce que ça a l'air très attrayant comme ça et en même temps c'est très dangereux parce que être en compétition avec un soi fantasmé, c'est quelque chose. C'est un petit peu aussi ce qui arrive en France, c'est-à-dire cette résurgence du discours de la France était mieux avant, on a perdu quelque chose. D'abord, on ne sait jamais de quel avant on parle, et puis de pour qui c'était mieux, c'est toujours ça aussi qui est important. On voit vraiment ça avec les réactions au mouvement MeToo, avec ces sortes de regrets, du progrès, c'est un peu inquiétant. Donc je pense qu'être en compétition avec un avant fantasmé, il faut s'alerter quand ça devient trop important.
À quoi ça sert au fond de devenir une meilleure version de soi-même, vous vous posez la question, si on ne peut pas être noté comme un hôtel ou un restaurant, je vous cite toujours.
Mais oui, parce que peut-être que au contraire de devenir une meilleure version de soi-même, ce qui est à supposer que ça existe, il faut être dans une sorte de paix avec les mauvaises versions de soi-même, parce qu'elles ont quelque chose à dire en fait en général.
Les mauvaises versions de soi-même.
Oui, comme individu, c'est sûr que vivre dans la crainte de la notation, c'est pas possible. Et c'est peut-être pas possible pour un pays non plus.
Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette injonction, Lola Lafont? Est-ce que c'est un programme politique? Est-ce que c'est une forme de nostalgie? Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho, non pas simplement pour soi individuellement, mais pour le pays, la culture où l'on vit?
Le fait de rêver à quelque chose d'un meilleur de soi-même, c'est excluant. Le plus souvent, ça. Moi, je pense que la nostalgie, c'est pas forcément un sentiment très. Comment dire? Je sais plus qui dit que la nostalgie est réactionnaire, mais il faut se méfier d'être dans la nostalgie, effectivement, parce que le plus souvent, c'est une réécriture de son passé. Il n'y a pas eu de moment, en fait, en réalité, où les choses étaient formidables, où il y avait la paix. Quand on dit c'était mieux avant, c'est quand, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'était mieux. Entre les deux guerres, c'était mieux. Quand les enfants travaillaient, c'était mieux. Moi, ça m'alerte toujours un petit peu.
Être soi-même, pour un écrivain, ça n'a aucun intérêt. C'est ce que vous écrivez dans Un état de nos vies. Écrire, c'est travailler à être tous les autres. C'est comme avoir de la personnalité, ça n'a aucun intérêt. On essaye de perdre la sienne.
Oui,
en général, on parle de se retrouver de se perdre.
Ben j'ai l'impression que l'injonction qui est aussi très publicitaire, que beaucoup de marques ont utilisé, sois toi-même, deviens toi-même, elle est très limitée. On a envie d'être beaucoup de gens à la fois, on a envie d'être en empathie avec les autres. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui manque justement à l'Europe, si on parle de sentiment européen, c'est que on devrait, en tout cas, travailler à une empathie européenne. C'est un peu le minimum.
L'empathie européenne, c'est une manière de rêver l'Europe, en tout cas dans cette revue magnifique Zadig hors série en partenariat avec Arte. Merci infiniment Lola Lafont d'avoir été l'invité d'Inter. Je signale que vous serez donc sur scène au Théâtre du Rond-Point du 21 au 31 mai pour jouer une pièce que vous avez écrite, Un état de nos vies. Et donc cette revue Zadig, elle sera en librairie dès le 24 avril. Merci infiniment. Tout de suite, le journal.